Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Axel Mauger.
Alors, pour cette émission Point de mire que nous avons sur Canal Academy, aujourd'hui nous avons le très grand plaisir de recevoir le général Louis Dumont qui a longtemps commandé la garde républicaine. Mon général, bonjour.
Bonjour cher monsieur, je suis ravi et impressionné de me trouver dans ce cadre.
Mais vous savez, vous avez raison de le dire car c'est un des plus beaux cadres à Paris. C'est le plus beau studio avec une vue sur la Seine magnifique. Alors mon général, vous avez une carrière et je me permets d'abord d'en dire un petit mot avant de vous offrir, si j'ose dire, la parole. Vous avez une très belle carrière et d'autant plus impressionnante que vous êtes un des ceux qui avaient fait HEC, les hautes études commerciales, en 1932. Et ça ne m'a pas échappé. Après un parcours très beau d'officier, de vous passer à Bourg-en-Bresse, 5e régiment de tirailleurs marocains à Meknès, passage à la faculté des lettres de Dijon, donc à la fois un homme d'action, un homme de réflexion, un homme de formation, ne l'oublions pas, l'école des officiers de la gendarmerie à Versailles, ce qui n'est pas rien. Et puis vous êtes lieutenant en 1938, ce qui me rappelle des souvenirs tout à fait importants. Mon père était sous-lieutenant en 1940. Donc, si vous voulez. Et vous avez été fait prisonnier pendant 18 mois. Nous allons y revenir. Oui. Et puis, gendarme, ensuite, vous gardez même, ce qui est absolument étonnant, vous avez la garde du maréchal Pétain, puis diverses missions importantes, bien entendu, de nombreuses. Nommé commandant à Dijon en 1952. En 61, lieutenant-colonel, direction générale de la gendarmerie à Paris, comme chef de cabinet d'un remarquable juriste qui s'appelle Jean-Claude Perrier. C'est un grand patron, ce n'est pas rien. Et 1965, là vous avez un début de votre couronnement, si j'ose dire, ça ne sera pas le dernier, affecté au commandement de la garde républicaine. Et alors là, c'est quand même, comme vous le dites vous-même, dans votre, si vous voulez, dans votre curriculum vitae, magnifique commandement, etc. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez dû connaître assez bien la plupart des présidents de la République période.
Sûr.
Alors, écoutez, nous allons, je voudrais donc, mon général, avant même de continuer à présenter ce personnage émérite, je me permets de le dire, que vous êtes, je voudrais revenir sur certains points. D'abord, pourquoi HEC en 1932 ?
Eh bien, parce que j'avais fait mon service militaire au 5e Marocain, j'avais été conquis par cette race, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères, hein, j'avais été conquis par cette race et ce pays. Et je me suis dit, mais il faut que j'y revienne, comme préfet. Mais ça ne s'appelle pas des préfets, ça s'appelle des contrôleurs civils. J'ai donc préparé à la fac de Dijon le concours qui se dépose. C'est un concours assez difficile. Bon, ben, j'ai essayé une première fois, échoué, ça va. Puis le concours a été supprimé pour des raisons budgétaires. Hein. Oui, et puis je me suis trouvé comme ça sur le... Mes parents étaient des tout petits fonctionnaires au PTT. Je me suis trouvé comme ça. Et puis voilà, le commandant de recrutement de Dijon connaissait mon père, peu importe, et il demandait toujours de mes nouvelles. « Que devient votre fils ?» Il dit « Ben, mon fils, il est sur le carreau. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il lui a dit que ça. « Oh, mais il dit, mais j'ai besoin de lui. » Et j'ai signé un contrat de 2 ans au 1er d'infanterie à Cambrai. Alors à Cambrai, on fabrique des bêtises, mais on n'en fait pas.
C'est préférable. Mais alors, dites-moi, une bêtise, je rebondis sur ce que vous venez de dire, une bêtise, c'est que vous êtes fait prisonnier pendant 18 mois pendant la guerre.
Oui, mais alors, parce que...
Comment, une question que je vous pose, quelles étaient à cette époque-là, c'est-à-dire donc à partir de 1940, quelles étaient vos pensées comme prisonnier? Vous étiez d'ailleurs, vous aviez d'autres illustres prisonniers comme Senghor. Quelles étaient vos pensées et que pensiez-vous de cette France? Qu'était-il advenu à
alors,
cette France?
Alors, je vais vous répondre agréablement, c'est que j'étais célibataire, donc je n'avais pas de soucis de famille. Mes camarades de camp, ils pensaient à leurs filles, à leurs femmes, moi j'avais pas de soucis de famille. Et je me suis lancé dans l'académie qu'on a mis sur pied à l'intérieur du camp. Alors
ça,
je donnais des leçons de ceci, des leçons de cela, etc. J'étais pris tout le temps. Heureusement qu'il y avait le dimanche pour aller au bout du camp, parce qu'on était 2000, aller prendre une tasse de thé avec les copains. Mais sinon, moi, j'étais terriblement pris.
Mais je vois votre optimisme et je dirais presque légendaire, mais comment voyez-vous à cette époque, comment expliquez-vous cette chute de la France? Je veux dire, est-ce que vous étiez quand même pas effarés tous les uns et les autres? De voir que la France s'était effondrée.
Quand j'étais convoqué à Fontainebleau, que j'ai vu le matériel dont je disposerais, j'ai vu que j'irais pas loin.
Donc vous en êtes rendu compte.
Ah, oui, oui,
il y avait véritablement plus un problème de matériel que d'hommes, vous diriez.
Les deux. Et... parce que nous n'étions pas prêts à faire la guerre. Les Allemands s'étaient préparés, mais pas nous. Alors, bon, c'était sûr qu'on aille dans le mur.
Ça rejoint les grandes analyses de nos principaux historiens, ce que vous dites, etc. Alors, pendant la guerre, vous vous retrouvez, d'abord, vous êtes professeur de français et d'économie politique poste intéressant. Oui, donc, vous êtes à, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ce côté pédagogue que vous retrouvez toujours. Pédagogue. Alors, vous retrouvez à la gendarmerie. Et ensuite, vous êtes nommé capitaine en 1943, si j'ai bien noté. Et alors, vous vous retrouvez avec différentes missions. Et tenez-vous bien, vous qui allez servir le général de Gaulle à l'Élysée, vous gardez à un moment comme capitaine le maréchal Pétain.
Exactement.
Que retenez-vous de cette époque auprès du maréchal Pétain, franchement?
Quand j'ai été nommé au Sable d'Olonne, parce que j'en avais marre de la vie de cabinet, hein, on m'a dit, il y a le maréchal Pétain qui est à l'Île-Dieu, alors je suis allé à l'Île-Dieu, etc. Mais le maréchal Pétain, j'ai un grand souvenir de lui. Je devais le voir toutes les semaines, moi, avec mes yeux.
Personnellement.
Oui. Et le soir même, je rendais compte au cabinet du ministre en disant, j'ai vu le maréchal Pétain à telle heure qui faisait telle chose. Et un jour, j'entre, il avait une femme de ménage qui venait là, qui me fait entrer, il était en train de faire son lit. Et il me dit, alors ça m'a marqué toute ma vie, capitaine, vous direz à vos enfants que vous avez vu un maréchal de France faire son lit. Oh là là, quel choc! Quel choc!
Est-ce que cet homme avait l'air en bonne santé, ou tout au moins, je veux dire par là,
au début,
alerte,
oui. Alerte. Au début, mais alors à la fin, non.
Non.
À la fin, non. Et alors, je raconte mon histoire, le maire de l'Île-Dieu, Monsieur Michaud, que je connaissais bien, j'allais lui rendre service toutes les fois, j'allais rendre service. Bon, et il me dit, vous savez, je suis à cause de vous un homme heureux. Ah, oui, parce que je reçois tellement de colis à destination du maréchal Pétain que je n'ai plus de pauvres. Deuxièmement, je n'ai plus des filles à marier parce que ce sont vos jeunes gendarmes qui me les prennent. Je suis un maire heureux.
Ah, dis donc, c'est extraordinaire. Mais dites-moi, à cette époque, vous qui étiez un militaire de carrière, un homme d'un excellent niveau, etc., comment aviez-vous pitié de cet homme-là?
Ah, oui.
Aviez-vous du respect pour cet homme-là?
Vous savez, enfermé entre quatre murs avec le bleu du ciel au-dessus, il y a de quoi devenir fou. Hein.
Il était traité comment cette époque?
Bien.
Correctement?
Très correctement.
Pétain
pouvait le voir quand elle voulait, etc. Et alors l'hiver, je ne pouvais pas faire l'aller-retour, les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, etc. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport l'hiver, hein, c'est dur là. Hein. Alors je couchais à l'hôtel des voyageurs, et il y avait un autre voyageur, c'était Madame Pétain. Je lui disais bonjour sans m'arrêter. Hein. J'étais en tenue.
Vous lui parliez ou pas du tout?
Ah non, pas du tout.
Mais alors, est-ce que le général de Gaulle, une fois que vous aviez commandé la garde républicaine, est-ce qu'il savait que vous aviez gardé le maréchal Pétain?
Non.
Il l'a jamais su?
Non.
Et vous êtes certain de ça? C'est quand même avoué que là...
Non, il me l'aurait dit, parce que vous verrez, moi j'avais des rapports très étroits avec lui, il me l'aurait dit, hein. Vous allez voir le papier que je vous ai laissé.
Dernière chose pour quitter cette époque, mais qui est une époque extrêmement importante de cette Seconde Guerre mondiale, on en parle tellement aujourd'hui par bien des aspects, cette époque, vous étiez dans la gendarmerie, vous aviez un poste important à la gendarmerie, comment se situer, ou comment voyez-vous les choses entre le maintien de l'ordre et la résistance? Et comment, à cette époque, en toute honnêteté...
La résistance, j'y étais un peu mêlé, parce que dans ma campagne, il y a un tas de types qui sont venus voir, qui m'ont dit, écoute, viens avec nous, etc., etc. J'ai dit, non, j'irai pas, je vous rendrai plus de service dans mes fonctions qu'autrement.
Voilà. D'accord. Donc, écoutez, vous avez répondu à notre question, à ma question, etc., etc. Alors, nous en arrivons, non pas à l'essentiel, mais à un moment très important de votre vie. Vous êtes nommé commandant à Dijon en 1952, lieutenant-colonel en 1961, donc tout à fait important, je l'ai dit tout à l'heure. Et 1965, vous êtes affecté au commandant de la garde républicaine, magnifique commandement. Alors, le général de Gaulle, quelles étaient vos relations avec lui?
Alors, dans le papier...
Et quelle était votre première rencontre avec le général?
Eh bien, c'est ce que je vous dis dans ce papier-là. Le général de Gaulle, il a demandé à son aide de camp, on a désigné un commandant de la garde, mais je voudrais bien voir l'homme. Alors, je me suis préparé, je suis allé chez le coiffeur, puis je me présentais à l'Élysée. Alors, tout est là, tout est dans le papier que je vous ai donné.
Que vous venez me donner, etc. Parfait. Est-ce que vous avez... souvenez-vous de certains entretiens avec le général de Gaulle?
Ah ben, j'en ai pas eu, ça a duré 8 minutes. C'est-à-dire, c'est le temps qu'il accordait aux grands ambassadeurs. Et l'aide de camp, qui était derrière la porte, hein, m'a dit « Vous lui avez tapé dans l'œil ».
Ah, mais vous avez pas fait une petite remarque à l'époque, si je me souviens bien, sur comment vous étiez traité avec vos hommes, etc.
Ben voilà,
etc.
Voilà, c'est ça.
Votre réponse, quelle a été? Alors, le général vous demande, si je me souviens bien, le général vous demande, alors, comment êtes-vous traité? Et vos hommes sont-ils bien traités? Oui. Et votre réponse?
Oui, alors, moi, j'ai dit, à la garde républicaine, il y a deux catégories d'êtres qui sont bien traités. Il y a le colonel, votre serviteur, et puis il y a les chevaux. Alors là, il a éclaté de rire, bien sûr, parce qu'il s'entendait pas, celle-là.
Hein?
Et puis, après, j'ai dit, oui, ben, on a quand même des ennuis de logement, etc., etc., mais enfin.
Alors, nous allons y revenir tout à l'heure. Juste avant d'en arriver un peu à la fin de cette première partie de notre émission, les autres présidents de la République, vous les avez un peu rencontrés. Je pense à Georges Pompidou.
Oui, mais écoutez, De loin. Une anecdote, le président Edgar Faure, un jour, le convoquait à l'Élysée. Et il me dit...
C'était l'époque de Georges Pompidou, ça ou...
Oui. Pompidou. Alors... Il me dit, accompagnez-moi donc en tenue, ça fera mieux d'avoir un général en tenue comme ça avec moi. Bon, alors je lui dis d'accord, et je m'en vais à l'Élysée avec lui. Alors la réunion a lieu, moi j'y étais pas, puis après il y a eu un vin d'honneur, cigarette, etc. Et alors, c'est là où mon rôle était, là, d'écouter, et j'écoute ceci. Edgar Faure dit à Pompidou, mon cher président, comment se porte la France? Alors Pompidou tire une bouffée, puis dit, mon cher président... La France est un pays ingouvernable.
Est-ce que vous diriez ça encore aujourd'hui?
Ah non, non.
Vous ne pensez pas que la France est un pays ingouvernable?
Oh, si, je le pense franchement.
Vous le pensez franchement?
Moi, je... Non.
Et comment arrive-t-on à le gouverner alors? Parce que ça intéresse certainement beaucoup de nos auditeurs étrangers.
Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique, bien sûr. Et vraiment, je suis attristé. Je suis attristé.
Et vous n'avez pas l'impression qu'avec le... Enfin, là, c'est peut-être un peu personnel, mais vous pouvez maintenant, vous pouvez peut-être dire ce que vous pensez. Vous n'avez pas l'impression qu'avec le changement que nous avons eu récemment, il peut y avoir des changements?
Si, je viens d'entendre tout à l'heure Valérie Pécresse, là. Hein.
Oui.
Remarquable.
Oui.
C'est une femme qui, au début, elle a piétiné un petit peu, etc. Mais maintenant, maître de ses dossiers, remarquable, hein.
Alors,
ça m'a fait plaisir.
Revenons à votre carrière. Alors, vous êtes nommé général en 1970. Vous êtes affecté à la tête de la région gendarmerie de
France.
Oui,
parce que je vous coupe, excusez-moi.
C'est que
le grade du commandant de la garde, c'était colonel. C'était pas général.
Ah, c'était pas général.
Si bien, quand je suis passé général, il a fallu aller. J'ai commandé la région.
Donc, vous ne pouviez être que commandant de la garde républicaine qu'en tant que colonel.
Non, c'est ça. Ouais.
Alors, n'oublions pas que vous avez quand même rencontré toute votre vie des hommes fantastiques, parce que c'est Pierre Messmer qui a fait en sorte, avec une autre personnalité, que vous soyez affecté au poste de gouverneur militaire de l'Assemblée nationale.
On m'a imposé à M. Peretti. Et M. Peretti m'a dit, vous n'êtes pas mon candidat, mais comme vous m'êtes imposé par les plus hautes autorités de l'État, je vous accueille.
Alors, il y a, et je crois que nous allons un peu conclure par cela, vous l'écrivez vous-même dans votre invité, vous êtes considéré comme une sorte d'espion du pouvoir.
D'espion de gendarmerie, bien sûr. Parce que ce poste était détenu par l'armée de terre. L'armée de terre et la gendarmerie, c'est pas toujours comme ça.
Non.
Alors, quand on m'a vu arriver, hein, ancien chef de cabinet de la gendarmerie, et au début... Quand j'ai fait mes visites à tous les chefs de service, c'était très froid. Alors j'ai dit quand même, je leur ai rien fait, moi, ces gars-là. Et puis on m'a dit, ah oui, mais voilà. Et puis après, c'était très bien sûr, puisque j'y ai fait 12 ans ou 13 ans, quoi.
Voilà, pour tous nos auditeurs en France et à l'étranger, dans de nombreux pays étrangers, voilà la carrière d'un homme formidable qui ne se termine pas avec le commandement de la garde républicaine, qui ensuite, comme je viens de le dire, est affecté au poste de gouverneur militaire de l'Assemblée nationale. Et en 1982, il quitte évidemment l'Assemblée nationale, mais pas vraiment, il ne quitte pas la vie public politique,
non.
Car il est aspiré par le préfet Michel Barouin pour régler des problèmes notamment d'assurance des militaires, et ce jusqu'en l'an 2000. Ce n'est pas rien. Alors, nous sommes en compagnie du général Louis Dumont et nous nous retrouvons dans un instant pour parler notamment de la garde républicaine. Thank you. Je suis avec le général Dumont qui, pendant plusieurs années, a commandé la garde républicaine à l'Élysée sous la présidence du général de Gaulle. Alors, mon général, parlez-nous un peu de votre vie comme commandant de la garde républicaine à l'Élysée. Par exemple, une journée, que se passait-il ?
Eh bien, je vous dirais que je fournissais des éléments à l'Élysée, mais à l'Élysée, il y avait un gouverneur militaire. Et c'est lui qui, une fois que je lui avais donné la matière, il en faisait ce qu'il voulait. Il organisait les gardes, les services, etc. Moi, j'évitais, au contraire, j'évitais d'y mettre les pieds.
À l'Élysée, il y avait combien de gardes républicains en permanence?
Oh, en permanence, il y en avait 50 ou 60.
50 ou 60.
Comme ça.
Oui, par rotation. Oui. Par rotation.
Si vous voulez, je me faisais un devoir de ne pas intervenir là-dedans.
Non. Vous obéissiez aux ordres du gouverneur militaire.
Exactement.
Etc. Alors, qu'est-ce que cette garde républicaine représente pour la France, selon vous?
Alors, c'est une unité de prestige.
Tout à fait.
Et qui nous coûte cher. Mais moi qui suis allé à Saint-Pétersbourg, à Madrid, à partout, j'ai vu des unités de prestige qui coûtent cher.
Qui sont peut-être pas aussi nombreuses que ça, vous me direz ailleurs. Parce que nous, il y a tout de même...
À Londres aussi.
À Londres. Parce que nous, c'est au moins 3000 hommes, la garde républicaine.
Exactement.
Vous voyez,
qui vous l'a dit?
Eh bien, j'ai quand même mes sources, évidemment. Et vous avez dedans les tambours éclairons.
Oui.
Vous avez les artisans de la garde. Vous avez les dresseurs pour la grande cour.
Je vous en parlerai là.
C'est quand même formidable.
C'est fantastique.
Alors donc pour vous, c'est vraiment une unité de prestige.
Oui,
c'est qu'elle est en vérité.
Il y a 3000 hommes, mais il y a surtout 517 ce matin, 517 chevaux.
Ah oui, donc c'est...
La garde, c'est les chevaux, hein.
Oui, attention. Tout à fait. Donc, c'est pas excusé. Et vous avez 517 hommes qui montent à cheval, ou un peu plus.
Non, quand même pas. Escadrons de 115 chacun.
Ah oui, il y a une réserve.
C'est ça, oui.
C'est une réserve, etc.
Et alors, dans la garde, il y a tellement de choses que je vous en parlerai, là, tout à l'heure. Et alors, parmi ces cavaliers qui montent, il y a quelques femmes.
Ah bon?
Ah oui.
Mais depuis quand, alors?
Depuis quelques années. On ne les reconnaît pas, bien sûr.
Bien sûr, oui.
On ne peut pas les reconnaître. Hein.
Mais c'est donc une ouverture vraiment sur la société,
et c'est
une très bonne chose. Est-ce qu'un étranger peut faire un stage dans la garde républicaine, à votre avis?
Comme disent les Anglais, don't know.
Vous ne savez pas. Bon, ben, vous avez l'honnêteté de le dire, c'est très bien. Il faut dire quand on ne sait pas.
Il y a eu des gens qui sont passés, qui sont venus faire un stage de 15 jours, des trucs comme ça.
Ah oui, d'accord.
Mais bien ciblé.
Oui,
hein.
Très ciblé. Donc, en fait, ça existe. Donc,
il y a des échanges, hein, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec le Portugal, etc., l'Amérique du Sud, etc.
Donc, cette garde, alors, est-ce qu'elle voyage beaucoup, cette garde républicaine?
Oui, bien sûr. Mais ce qui voyage dans la garde, c'est surtout les musiques.
Ah,
hein.
Oui.
La garde, elle est allée à Londres, elle se déplace, bien sûr.
Et
enfin, c'est pas son boulot.
Les musiques, ça comprend à peu près combien d'hommes?
Les musiques. La grande musique de la garde, il y a 120 exécutants. Hein.
Oui, oui.
Bon, sous les ordres du colonel Boulanger, qui est un type extraordinaire.
Très, très connu. Ouais, hein, très connu.
Boulanger.
À la MOPA, notamment, dont on parle de l'académique.
Voilà, oui. Il y a les trompes de chasse, bon, que tout le monde ignore. Mais il y a des trompes de chasse.
Trompes de chasse,
bon. Il y a la maison du roi, la musique de la maison du roi. Il y a un tas de choses, vous savez. Hein.
Le répertoire, donc, est important, est très, très important.
Hein. Et en plus de ça, la garde s'occupe du corps de l'armée française, du corps de chant de l'armée française.
Qu'est-ce que vous voulez dire par s'occupe? C'est-à-dire enseigne?
Loges,
oui. À les loges.
Ah
oui,
aussi.
Ah oui, d'accord.
Et puis c'est chez nous, à la garde, que se passent les répétitions.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
d'accord.
Ça, ouais.
Donc c'est tout à fait important. Alors, les voyages, est-ce que la garde républicaine voyage chaque année dans des différents pays? Il y a des envois de soldats, je présume, de temps à autre.
Oui, c'est très bizarre. Moi, de mon temps, il y a eu le Canada. Hein,
très important, ça.
Oui, bien sûr.
Alors, ça a été une période étonnante, ça, parce que durant ces années 60, vous êtes allé vous-même diriger une partie de la garde républicaine,
oui,
et notamment
à l'exposition universelle
de Montréal de 1967.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Alors, et combien étiez-vous de chevaux et d'hommes, là-bas?
Alors, de chevaux, on devait être 60 chevaux. D'hommes à peu près 300. Il y avait la section de gymnastique, il y avait les motocyclettes, il y avait un tas de gens. En tout, ça faisait 500, À peu près 500.
Mais dites-moi, pour gérer ça, c'était énorme.
Alors, il a fallu le préparer. Alors, je suis allé au Canada avant, avec mon directeur, M. Perrier. On a rencontré les grands patrons de l'armée canadienne. Et puis, on a mis ça sur pied avec le Canada.
Ils ont été très coopératifs, je crois.
Bien sûr.
Extraordinaire, je crois.
Pour eux, ils étaient très fiers d'accueillir la garde républicaine. Il n'y avait qu'à demander, c'est tout.
Mais est-ce que la garde républicaine, autant de soldats, autant de membres de la garde républicaine, étaient accueillis dans d'autres pays, ou c'était quand même assez rare?
Parce que sinon,
la garde, on en a
besoin.
À
part l'Angleterre, c'est vrai.
Ah oui. Donc vraiment, c'était un hommage exceptionnel que nous faisions au Canada, etc.
Oui. C'est-à-dire que le général de Gaulle m'avait précédé, si j'ose dire, d'un an, puisqu'il était allé à Québec, vive le Québec libre. Et puis j'ai dit, paraît que non, mais moi je dis quand même, il voyait loin.
Vous qui étiez un espion, d'une certaine façon, comment expliquez-vous que, justement, un an après l'avenue du Gérald de Gaulle, qui n'avait pas plu à tout le monde, que la garde républicaine ait été invitée à Montréal?
C'était un outil pour lui, un outil politique. À mon avis.
Les Canadiens, parce que les Canadiens qui étaient comme assez, c'était une façon de recoller, les morceaux de l'amitié, si j'ose dire, de se réconcilier.
On était vraiment remarquablement reçus.
Ah oui. Et puis devant une foule énorme.
Ah oui.
Énorme. J'ai lu quelque part qu'il y avait 300 000 personnes.
Oui, on jouait tous les soirs à ciel ouvert.
C'est extraordinaire. Et vous êtes resté combien de temps alors
Moi, je suis resté un mois et demi à peu près. Mais la troupe, si j'ose dire, est restée trois bonnes semaines. Mais alors, le plus difficile, c'était de trouver un bateau pour emmener les chevaux.
Alors, comment vous avez-vous fait?
On est parti avec mes officiers d'état-major. On est allé en Allemagne, etc. Et c'est au Danemark où on a trouvé un bateau en bon état qui pouvait supporter 60 chevaux.
Ah, parce que c'est si difficile que ça. Oui, évidemment. Il faut les entraver.
Et puis les vétérinaires étaient là. Et alors, quand ils ont mis 5-6 jours. Quand ils sont arrivés au port de Montréal, moi j'y suis allé. Les chevaux tombaient comme des quilles.
Parce qu'il
n'y avait plus rien. Ça durait un quart d'heure.
Pendant un quart d'heure.
Puis alors, le tas de fumier pendant qu'ils étaient là. Il y avait 2 mètres de fumier. On a balancé ça à la pelle dans le port de Montréal. Et puis le Saint-Laurent s'est chargé de véhiculer tout ça.
Et est-ce que vous-même, vous y étiez allé pour préparer le voyage? Est-ce que vous connaissiez bien le Québec de cette époque, le Canada français?
Non, c'était surtout Montréal que je...
Est-ce que vous n'avez pas été surpris au départ de découvrir ces Français d'origine lointaine? Qu'est-ce qui vous avait frappé au départ
Au départ, je l'ai trouvé un peu prétentieux.
Ah bon?
Oui, prétentieux, je dis bien. Peu à peu, j'ai appris à les connaître. J'ai encore des amis là-bas, bien entendu. Et alors, j'ai profité de mon séjour pour aller à Vancouver, en m'arrêtant à Toronto, Calgary, Edmonton, etc., Vancouver. Alors, Vancouver, quand j'ai vu le Pacifique, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire.
Ah, c'est étonnant, oui.
Oh là là.
C'est un des pays les plus grands du monde, les moins peuplés du monde.
C'est
fabuleux, de se retrouver dans ce pays.
Et un de mes amis, qui s'occupait de la foire là-bas, il me disait, il est difficile de vivre à l'ombre d'un géant.
Donc le rôle, là vraiment, et c'est ce qui est très important dans ce que vous dites, mon général, c'est que le rôle de la garde républicaine a été d'une certaine façon de recoller les morceaux d'une amitié quand même un peu écornée.
Des Américains, la frontière est à côté de Montréal, sont venus voir notre spectacle. Et ils m'ont dit, mais nous on est preneurs, quand vous voulez, vous avez les avions, les bateaux, l'argent, tout ce que vous voulez. J'ai dit du calme, je vais en rendre compte à mon patron, Monsieur Perrier. Monsieur Perrier m'a dit qu'ils ont embrassé. J'ai dit non. Et pourquoi? J'ai dit parce que je perçois déjà quelques failles dans la discipline. Alors Perrier s'est retourné vers Mesmer, il a dit le colonel Dumont il veut pas. Bon ben ça va. On est rentré en France.
Parlez-nous justement de la discipline. Alors, ça c'est intéressant. De la discipline. Qu'est-ce qui fait un bon garde républicain?
Le garde républicain, avant d'être garde républicain, il est d'abord gendarme. On est tous gendarmes.
Il est choisi
la garde républicaine. Bon.
Et sur quels critères est-il choisi, justement?
Il y a des critères physiques, d'abord. Et puis, il y a des critères d'éducation, il y a un tas de choses.
Est-ce que tous les gardes républicains sont des gens exceptionnellement très très performants du
Les cavaliers,
du...
oui.
Les cavaliers, oui.
Les cavaliers, oui. Et les deux compagnies des grands honneurs, oui. Les autres, ce sont des gendarmes normaux.
Ah oui, hein. D'accord.
Et de plus en plus...
Donc vous avez presque une élite au sein d'une élite.
Ah oui, hein, on a exigé d'eux beaucoup de choses. Ouais.
Et n'oublions pas, il y a des motocyclistes aussi, je crois.
Les motocyclistes, oui. Alors, les motocyclistes sont, je crois, une quarantaine. Hein.
Qui sont, eux aussi, alors très performants. Hein. Ouais. Et eux, ils encadrent la voiture présidentielle dans des déplacements, etc.
C'est eux qui encadrent le Tour de France, d'ailleurs.
Alors, j'ai quand même sous les yeux, je ne peux pas m'empêcher de citer cela, une mémoire de garde, et notamment, donc, je vois le titre de cet article très intéressant, « Dumont », c'est-à-dire on parle de vous, et c'est le général de Gaulle qui parle, « Dorénavant, vous serez responsable devant l'État, ouais. C'est-à-dire moi. » Alors, à vrai dire, j'étais très bien avec le général de Gaulle. En fait, tout a commencé quand j'ai pris le commandement de la Légion de la Garde républicaine de Paris le 1er juillet 1964. Le général a souhaité me rencontrer. Il a dit à son aide de camp qu'il souhaitait voir l'homme qui commandait la garde, c'est-à-dire l'homme que j'ai en face de moi, le général Dumont. Ça a été pour moi le branle-bas de combat, coiffeur, chemise blanche. Autant vous dire que j'étais impeccable en montant les marches du perron de l'Élysée. L'entretien a duré près de 8 minutes. Lorsque je me suis levé pour prendre congé, le général s'est approché de moi, me prenant par l'épaule, ce qu'il ne faisait habituellement jamais, et m'a dit « Dumont, dorénavant, vous serez responsable devant l'État, c'est-à-dire moi », d'où le titre de l'article. Alors que ces mots résonnait encore dans ma tête, en sortant du bureau, j'ai croisé son aide de camp qui m'a dit « Dites donc, mon colonel, savez-vous que le temps que le général vient de vous accorder est ce qu'il accorde habituellement aux grands ambassadeurs ? Je peux vous assurer que vous lui avez tapé dans l'œil, mon colonel. Dites-moi, c'était pas un mince compliment venu de l'aide de camp du général de Gaulle ? C'était quand même formidable, ça. Et vous êtes resté commandant de la garde républicaine à Élysée combien d'années ?
Et alors, voyez-vous, le général de Gaulle m'invitait à sa table avec mon épouse et Madame de Gaulle à l'Élysée, à des déjeuners. Et puis un certain nombre d'officiers que je désignais moi-même. On était 30 ou 40.
Et là,
deux fois par an.
Deux fois par an.
Ouais, deux fois par an.
Et le général, comment se comportait-il à table alors, le général
il
de Gaulle?
Il disait rien. Il était en face de moi et les tables à l'Élysée sont très larges. Alors c'est embêtant. Hein.
Il était un peu sourd d'ailleurs, d'après ce que je sais.
Il posait des questions à mon épouse. La pauvre, elle était comme ça. Elle préparait une réponse, mais hop, aussitôt, il posait une autre question.
Une autre question, tout à fait. Ouais. Et quelle sorte de... Est-ce qu'il s'intéressait aux dames ou pas, le général comme ça à table, ou c'était plus poliment?
Il posait toutes sortes de questions qui n'avaient aucun lien les unes avec les autres, comme ça. C'était un jeu pour lui.
C'était un peu pour voir comment les êtres se révélaient.
Alors moi, je lui avais plu. Il me voyait quelquefois à cheval, etc. Je faisais partie de sa vie, etc.
Oui, puis il aimait bien le côté militaire, attention, etc. Alors mon général, le temps avance, hélas, mais nous passons ensemble des moments absolument précieux. Et alors, je voudrais quand même pour les jeunes générations d'aujourd'hui, vous posez une dernière question. Qu'est-ce qui peut intéresser les jeunes de venir, d'appartenir, de s'engager dans la garde républicaine? Quel est vraiment l'intérêt?
Il y a beaucoup de gens qui sont candidats pour la garde républicaine parce que il y a la tenue.
Ah, la tenue est magnifique.
La tenue est formidable,
magnifique.
Hein, bien sûr.
Ah oui, magnifique.
Pour conquérir les cœurs, il n'y a rien de tel.
Ah oui, ça c'est vrai, quand vous dites j'appartiens à la garde républicaine, c'est vrai que c'est quand même un des aspects de la séduction française.
Bien sûr.
Passe par la garde républicaine.
Avec les bottes,
faut bien le dire.
Avec tout ça, c'est exact. Hein,
ah oui, oui. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Hein, être garde à cheval de la garde républicaine, ce n'est pas rien. Oui. On le voit le 14 juillet d'ailleurs, etc.
Oui, bien sûr. Oui. Mais je vous assure que quand j'ai fait mon premier 14 juillet,
Vous aviez, comme on dit communément, peu peur.
Oui, parce que vous avez quand même l'ARN, le sabre, le casque, tout ça, et puis vous sentez que vous avez tout derrière, tout l'appareil, vous sentez que vous avez tout l'appareil étatique derrière vous.
Hein, c'est un poids. Et vous avez eu des félicitations après ce premier défilé?
Bien sûr.
Le général vous a dit quelque chose ou...
Ah oui, il a dit « c'est bien ». Très bien.
Ah, il fait des heures. Donc, c'était venu du général, c'était un très beau compliment, etc.
Dans le papier que je vous ai remis, dans la deuxième partie en bas, c'est amusant. C'est à lire, ça. Hein.
Dites voir, mon colonel, j'ai appris que vos gardes étaient mal logés. Est-ce exact? Ah oui, alors là, vous rencontrez de nouveau le général de Gaulle, etc. Je me doutais qu'il s'agissait d'une lettre anonyme qui lui était parvenue. Celui-ci poursuivit. Quelles mesures avez-vous pris ou comptez-vous prendre pour remédier à cet état de choses lamentable ? Parce que les hommes étaient
mal logés. Et il a dit « lamentable ».
Lamentable. Je me suis levé et prenant mon souffle, je lui ai répondu « Effectivement, mon général, il y a deux catégories d'êtres qui sont bien logés à la garde. Il y a le chef de corps, votre serviteur, c'est-à-dire le général Dumont que j'ai en face de moi, et les chevaux. Alors, c'est assez cocasse. Le reste ne l'est pas et j'entends bien remédier à cette anomalie. » Il a éclaté de rire.
Oui.
L'atmosphère s'est détendue. J'avais gagné en répondant sans embâge. Ma franchise teintée d'humour lui avait plu.
Ah oui.
Bien, écoutez, mon général, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Toutes nos félicitations.
Merci
avoir
beaucoup.
Été le chef de la garde républicaine à l'époque du général de Gaulle, ce n'est pas rien. Et vous faites honneur à notre pays.
Merci beaucoup.
Je suis sûr que les auditeurs français et étrangers seront très heureux d'entendre votre témoignage.
Vous m'avez impressionné.
Je vous en prie, merci mon général.
C'est moi qui vous remercie.
J'ai reçu aujourd'hui le général Dumont et vous pouvez parfaitement télécharger cette émission dans le cadre de notre médiathèque. Je vous remercie, très bonne journée.
Canal Académie.